Tu connais William Faulkner?
Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui, enlève ton jersey.
Les Hommes de l'Ombre, l'émission historique qui met au jour les personnages oubliés de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Et c'est une femme de l'ombre, Nettie Stevens, dont nous allons parler aujourd'hui.
L'une des premières femmes à avoir intégré complètement le monde scientifique et à s'y être imposée comme un personnage incontournable fait aujourd'hui figure de modèle, à l'époque où de plus en plus de filles sont encouragées à mener des études scientifiques.
Mais plus encore que sa présence au sein de cette communauté de chercheurs, ce sont ses découvertes qui ont changé à jamais les paradigmes dans l'histoire de la connaissance. En effet, en montrant que le sexe de chaque individu est déterminé par des caractères chromosomiques, elle met fin à des siècles de croyances confuses autour du processus de détermination sexuelle.
Alors qu'aujourd'hui, les pensées se multiplient, développant l'idée d'individus asexués, Nettie Stevens est peut-être là pour nous rappeler aux réalités scientifiques qui gouvernent tous les êtres vivants. La redécouvrir devient alors un impératif de la modernité et la faire sortir de l'ombre, une marque de reconnaissance.
Thomas Hunt Morgan.
Une étude si étendue ne semblera pas superflue si l'on se souvient de la réception de cette découverte si importante à l'égard du sexe. La signification profonde des résultats n'était en aucun cas appréciée. Et ce n'est pas aller trop loin que dire que de nombreux cytologistes ont adopté une attitude sceptique, voire antagoniste, pendant plusieurs années, à l'égard de cette nouvelle découverte faite par Nettie Stevens.
Bonjour Simon.
Bonjour Gaspard.
Alors, il paraît naturel de voir cette Nettie Stevens dans notre émission des Hommes de l'Ombre.
Oui, Nettie Stevens est plus exactement notre première femme de l'ombre. Elle est une scientifique méconnue du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, elle n'est entrée dans la carrière de recherche proprement scientifique que très tard dans sa vie, à l'âge de 35 ans.
Mais on avait déjà repéré auparavant sa formidable énergie dans l'apprentissage de nouvelles connaissances.
Effectivement. Si on peut caractériser globalement Nettie Stevens par quelques traits, c'est avant tout sa capacité formidable de mémorisation, d'assimilation de nouveaux savoirs.
Et à cet égard, elle est très complète. Elle a étudié et enseigné non seulement les sciences, mais aussi le latin, l'anglais ou les mathématiques. Cela fait d'elle une femme à la culture très développée et à l'érudition impressionnante.
Ne serait-ce que pour ça, elle mériterait qu'on la découvre. Mais plus encore, elle a étudié d'innombrables branches des sciences, ce qui la rend vraiment très souple dans les raisonnements scientifiques et les démarches d'expérimentation et de déduction. Par exemple, elle a tout autant étudié la régénération dans des organismes primitifs multicellulaires que la structure d'organismes unicellulaires ou les cellules germinales des insectes, la division cellulaire chez les vers de terre, et ainsi de suite.
Elle fut longtemps méconnue, notamment au moment de sa découverte cruciale de 1905. Elle parvient alors à prouver que le sexe d'un être vivant dépend de la présence ou de l'absence du chromosome Y dans les cellules germinales, celles qui produisent les spermatozoïdes ou les ovocytes. La communauté scientifique, comme on a pu l'entendre dans l'extrait de tout à l'heure, a commencé par refuser ses conclusions.
Et puis finalement, ses travaux ont été petit à petit acceptés, intégrés et repris. Pour preuve de cette confirmation de sa légitimité nouvelle, Nettie Stevens a reçu en 1908 l'Alice Freeman Palmer Fellowship de la part de l'Association américaine des femmes universitaires. Une forme de bourse-subvention qui permet d'aller faire des recherches plus poussées dans quelques laboratoires spécialisés à travers le monde.
Et très récemment, le 7 juillet 2016, Google lui a réservé un doodle, donc les dessins de la page d'accueil du moteur de recherche, pour célébrer le 155e anniversaire de sa naissance. C'est dire à quel point la pensée de Nettie Stevens reste une problématique contemporaine.
On le voit notamment dans les débats actuels sur le sexe et le genre. Sans trop s'immiscer dans la question, on va pouvoir rappeler avec Nettie Stevens que si chaque individu est bien entendu libre de choisir son orientation sexuelle, il ne doit pouvoir le faire qu'en ayant conscience de sa détermination sexuée à la naissance. Et ça, on ne peut commencer à le comprendre que grâce aux travaux de cette femme de l'ombre.
Thank you.
matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie.
Nettie Maria Stevens est née le 7 juillet 1861 à Cavendish, dans le Vermont.
Pour vous situer un peu, le Vermont, c'est le nord-est des États-Unis, pas loin de la frontière avec le Canada. C'est d'ailleurs dans cet État américain que le candidat malheureux à la primaire démocrate, Bernie Sanders, est sénateur.
Le père de Nettie, Ephraim Stevens, est charpentier. Avec sa femme Julia Adams Stevens, ils ont eu 4 enfants, Nettie est la 3e.
Mais ce qui apparaît au premier abord comme une bonne famille moyenne de l'Amérique cache en réalité une succession de drames. D'abord, les 2 grands frères de Nettie, Charles Merrill et William Porter, sont morts dans leur enfance, Nettie ne les a jamais connus.
Et ensuite, 2 ans après la naissance de Nettie, c'est au tour de sa mère de décéder. Elle a entre-temps mis au monde une autre petite fille, Emma Julia Stevens.
Vu son âge, Nettie n'avait donc pas vraiment assimilé que sa mère avait disparu. Mais elle grandira malgré tout avec cette absence fondamentale, bien que son père se soit remarié 2 ans plus tard, dès 1865, avec Helen Thompson Stevens.
Bon, contrairement au mythe de l'affreuse belle-mère, Nettie entretenait des relations plutôt bonnes avec Helen. Et d'ailleurs, toute la famille entame une nouvelle vie après ce remariage. Ephraim, Helen, Nettie et Emma déménagent à Westford, dans le Massachusetts.
Le hasard veut que Westford se situe dans le comté du Middlesex et que Nettie Stevens fera plus tard des découvertes sur le sexe des individus. La coïncidence mise à part, c'est entre les usines de fil de haute qualité et les nombreux pommiers qui font la fierté de cette petite ville d'à peine 2000 habitants que se déroule véritablement l'enfance de Nettie Stevens.
Nettie commence sa scolarité dans des écoles publiques. Elle est déjà remarquée pour ses grandes capacités. Elle a un esprit logique développé, une bonne mémoire et une rare capacité de synthèse.
Le succès de son père dans son métier lui permet de payer à ses deux filles une école privée, la Westford Academy.
Nettie et Emma sont toutes les deux brillantes, et d'ailleurs Emma finira par être une excellente enseignante au lycée. C'est remarquable à une époque où encore peu de femmes parviennent à une reconnaissance académique de leur capacité intellectuelle.
Quant à notre amie Nettie, après avoir étudié pendant près de 8 ans le latin, le grec, l'anglais et les mathématiques, elle finit majeure de sa promotion en 1880 et obtient ainsi son diplôme d'institutrice.
Déjà, elle prend goût aux études et se montre particulièrement investie dans son parcours scolaire. Ce curriculum relativement classique lui a donné une culture assez globale qu'elle pourra réutiliser par la suite.
Et ça ne tarde pas. Juste après la réception de son diplôme, Nettie Stevens décroche un boulot au lycée Lebanon dans le New Hampshire, donc assez loin de sa famille et du Massachusetts. Elle se met très tôt à enseigner des matières assez diverses, telles que l'anglais, les maths, le latin bien sûr, ce qu'elle tient de son éducation classique, mais aussi la physiologie et la zoologie qu'elle avait eu l'occasion de découvrir.
Nettie a sans doute toujours eu un certain goût pour les matières scientifiques, mais elle restait assez incertaine sur ses projets d'avenir. La décision était d'autant plus difficile que l'éventail des études poussées et métiers spécialisés proposés aux femmes était assez restreint.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h, sur Radio Campus Paris.
C'est au cours des années 80 qu'elle se fixe un but précis, devenir chercheur dans le domaine scientifique.
Mais pour ça, il faut de l'argent.
Et oui, et c'est pour ça qu'elle commence à accumuler ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits boulots par rapport à son ambition. Institutrice donc, mais aussi bibliothécaire. Elle cumulera ces deux métiers pendant près de 16 ans, de 1880 à 1896.
Mais ça ne l'empêche pas d'essayer de continuer ses études et recherches sur le côté. Ainsi, entre 1881 et 1883, elle se rend à Westfield Normal School, dans le Massachusetts, pour reprendre ses études interrompues l'espace d'un an. Elle y étudie de toutes les sciences et engrange des savoirs qui lui seront précieux par la suite.
Ce qui est très impressionnant, c'est que le cursus à la Westfield Normal School se faisait habituellement en 4 ans et qu'elle réussit à le terminer en à peine 2 ans. Elle a des notes exceptionnelles et des évaluations parfaites en algèbre, en géométrie et en chimie.
Son zèle pour l'apprentissage et l'enseignement est déjà la marque d'un esprit curieux et déterminé. Lorsque Nettie Stevens se fixe un objectif dans l'ordre de la connaissance, elle y parvient.
En 1883, elle revient à Westford et retrouve sa famille. Elle se met à enseigner à une école locale et est très vite reconnue comme une enseignante de grand talent. Cela se confirme un an plus tard, puisque l'école privée dans laquelle elle a étudié, la Westford Academy, lui demande d'assurer des cours portant, entre autres, sur les mathématiques et les sciences.
Elle y enseignera 6 ans jusqu'en 1892. Ce métier qu'elle exerce, ajouté à celui de bibliothécaire, lui permet de mettre de l'argent de côté. Son but, c'est de pouvoir se payer plusieurs années d'études scientifiques pour obtenir un diplôme universitaire. Nettie a décidé de devenir une scientifique et fait tout pour pouvoir accéder à cette vie.
On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits pour inciter les jeunes filles à faire des études scientifiques, car il y en a peu. Il faut alors imaginer ce que c'est que d'être une femme et de vouloir faire une carrière scientifique à la fin du 19e siècle. C'est extrêmement rare et assez inouï.
Oui, le milieu scientifique reste assez méfiant à l'égard des femmes qui travaillent dans ce domaine.
Ce qu'on peut expliquer par de vieilles mythologies et des pensées figées. On attribue aux femmes un sens de l'émotion plus développé que celui des hommes, ce qui aurait tendance à brouiller leur jugement face à des faits scientifiques nécessitant une certaine objectivité.
Ce soupçon, Nettie devra l'endurer toute sa carrière. Mais c'est précisément sa détermination, sa volonté et son assurance qui lui permettront de finalement se faire une place dans un monde fermé aux femmes.
Nettie Stevens livre une vie quasi ascétique durant ses 16 années, entre 1880 et 1896. Elle est concentrée sur son seul objectif, pouvoir se payer des études à l'université. Elle ne se marie pas et connaît peu les passions amoureuses. Elle se contente de peu, elle est implacable en ce qui concerne ses économies, et elle développe de plus en plus sa passion pour les sciences.
Cette époque sera fondatrice pour Nettie. C'est là qu'elle découvre le goût des sciences, mais aussi celui de l'apprentissage et de la recherche. Elle y développe son esprit critique, mais aussi ses facultés d'innovation, car elle a la maturité nécessaire pour aborder les problèmes scientifiques d'un œil différent. Et c'est en effet à l'âge de 35 ans seulement qu'elle entame enfin un cursus universitaire de biologie à l'université Stanford en Californie.
So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. All crazy things that things really are like. Electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly.
We need a theory of everything.
We need a theory of everything.
Which is still just beyond our grasp.
Still just beyond our grasp.
We need a theory of everything.
We need a theory.
Perhaps the ultimate triumph. The ultimate triumph of science.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. It's made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story.
I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.
Nous sommes en 1896. Enfin, Nettie Stevens a accumulé suffisamment d'argent pour pouvoir se payer des études scientifiques poussées. Elle s'épanouit à l'université de Stanford et se montre à nouveau brillante.
Elle a essentiellement des cours de physiologie pendant l'année scolaire, mais ce n'est pas tout. En effet, Nettie, assoiffée de connaissances, travaille pendant les vacances d'été au laboratoire Hopkins Seaside. Elle y étudie l'histologie et la cytologie.
Pour nos auditeurs les moins spécialisés, l'histologie, c'est l'étude des tissus biologiques. Et la cytologie, c'est l'étude des cellules isolées. Les cellules, ce sont des structures à la forme changeante et enfermées dans une espèce de grand sac qu'on appelle le noyau.
Bref, elle se forme déjà à ses futures activités de généticienne.
Et celle-ci se précise. En effet, en 1899, Nettie Stevens reçoit son diplôme de Bachelor of Arts, l'équivalent de la licence, et un an plus tard, elle reçoit son diplôme de Master.
L'année suivante, elle publie son premier article de microbiologie. Elle l'appelle « Étude sur les infusoires ciliés ».
Pour faire court, il s'agit de l'étude d'organismes unicellulaires assez complexes qui possèdent deux noyaux.
Le plus intéressant ici, c'est que les ciliés sont définis par leur sexualité. Et celle-ci est fondée sur la recombinaison du patrimoine génétique.
Bref, Nettie Stevens aborde déjà ici la question de la reconduction des gènes d'un parent vers l'enfant, et cette question de la sexualité l'amènera tout droit vers sa grande découverte des chromosomes sexuels.
Mais en attendant cette trouvaille fondamentale, Nettie continue ses études, et se spécialise en cytologie, donc l'étude des cellules isolées, à l'université de Bryn Mawr, en Pennsylvanie.
Là, elle découvre les travaux d'Edmund Beecher Wilson, l'ancien chef du département de biologie. Cet homme va jouer, on le verra, une importance capitale dans les découvertes de Stevens sur les chromosomes.
Nettie obtient dès sa première année une bourse d'études. Elle est considérée par tous comme une femme d'une grande intelligence et à la détermination sans faille. On écoute tout de suite une citation de Thomas Hunt Morgan, le chef du département de biologie.
Sa détermination et son zèle, combinés avec des pouvoirs vifs d'observation, sa prévenance et sa patience, unis à un jugement bien équilibré, expliquent en partie ses remarquables accomplissements. Nettie Stevens part étudier un temps en Allemagne, mais aussi à Naples, où elle se consacre aux organismes marins. Après avoir reçu son doctorat de l'université Bryn Mawr, Stevens se voit proposer un poste d'assistant à l'Institut Carnegie de Washington. Elle s'y rend pour l'année 1904-1905.
Là, elle étudie l'évolution des cellules germinales chez les pucerons. Les cellules germinales étant celles susceptibles de former les gamètes, à savoir les spermatozoïdes ou les ovocytes.
On voit que Stevens a toujours été passionné par le processus de détermination du sexe d'un individu, et c'est ce vers quoi elle se dirige de plus en plus au cours de sa vie.
Oui, et d'ailleurs, elle commence à se faire connaître par ses pairs. En 1905, elle reçoit une récompense de $1000 pour un article considéré comme le meilleur écrit par une femme. Surtout, de retour au Bryn Mawr College, elle publie un autre article qui devient le cœur de ses travaux de recherche, Studies in Spermatogenesis, études de la spermatogenèse.
Pour les plus courageux, cet article est disponible en intégralité sur Internet, et évidemment, nous mettrons le lien sur la page de l'émission. Nettie va s'appuyer sur des travaux antérieurs pour ses recherches, notamment celui de Mac Klung, qui estime que le chromosome accessoire pourrait être un déterminant du sexe.
Stevens va montrer l'hérédité des chromosomes et leur influence dans la détermination du sexe. Elle est ainsi à l'origine de la découverte du rôle joué par le chromosome Y dans la détermination sexuelle.
Comment procède-t-elle ? Elle utilise des insectes pour ses expériences et elle réussit à identifier le chromosome Y chez un coléoptère du genre Tenebrio molitor. À partir de là, elle peut déduire que le fondement de la détermination du sexe dépend de la présence ou de l'absence du chromosome Y.
Elle remarque en effet la différence entre les deux sexes de ce genre d'insectes pour les cellules corporelles comme pour les cellules germinales. Cette différence ne se situe pas dans le nombre de chromosomes, mais dans la taille de l'un d'entre eux, qui est très petit chez le mâle et de la même taille que l'autre chromosome 19 chez la femelle. Ce petit chromosome est le fameux chromosome accessoire repéré déjà chez d'autres espèces.
En fait, c'est à partir de cette différence observée par Nettie Stevens qu'on peut réellement fonder la distinction entre le chromosome X et le chromosome Y. On rappellera donc simplement à nos auditeurs que les êtres de sexe féminin ont deux chromosomes X et que les êtres de sexe masculin ont un chromosome X et un chromosome Y.
Nettie Stevens a donc découvert que les mâles ont des cellules reproductrices avec deux chromosomes, X et Y, alors que celles des femelles ne possèdent que le chromosome X. Elle en conclut que les chromosomes paternels déterminent le sexe de la progéniture.
Cette déduction est parfaitement logique, le seul problème, c'est qu'elle est difficilement acceptée par le reste de la communauté scientifique. En effet, il était admis que le sexe de l'enfant était déterminé par la mère et par des facteurs environnementaux.
Oui, et cette croyance remonte à plusieurs siècles. On était notamment persuadé que la température et la nutrition avaient une influence sur la détermination du sexe.
Ainsi, au 19e, les travaux de Geddes et Thomson ont avancé l'idée que les facteurs favorisant l'accumulation ou le stockage de l'énergie et de la nourriture prédisposent à une descendance femelle, alors que les facteurs favorisant l'utilisation de l'énergie et de la nourriture prédisposent à une descendance mâle.
Et Nettie Stevens, une femme dans une communauté scientifique assez sexiste, cherche à ébranler les conceptions dominantes. Sa théorie, on l'a dit, c'est la détermination chromosomique du sexe.
La détermination du sexe est liée à une hérédité chromosomique, plutôt qu'à un événement fortuit de l'environnement. Cette thèse est radicalement neuve au début du XXe siècle. Elle ne pourra être acceptée que parce que Nettie Stevens ne sera pas la seule à la défendre au sein de la communauté scientifique.
En effet, et on retrouve ici Edmund Beecher Wilson, qui fait une découverte très similaire dans la même année. C'est ça qui permettra au monde scientifique d'accepter la théorie chromosomique de l'hérédité.
Ça, mais aussi les événements ultérieurs de Thomas Hunt Morgan, le chef du département de biologie qu'on a entendu tout à l'heure, et prix Nobel de physiologie en 1933, pour ses découvertes sur le rôle joué dans les caractéristiques individuelles par le sexe et la transmission génétique, la couleur des yeux, des cheveux, etc.
Thomas Morgan a contribué à rendre célèbre la paire de chromosomes XY que Nettie Stevens a découverte.
Pour ses travaux désormais reconnus, Nettie Stevens reçoit une subvention de l'Institut Carnegie. Cela lui permet d'être enfin tranquille du point de vue financier et de pouvoir se consacrer à la recherche scientifique.
Elle reste très liée à l'université de Bryn Mawr. Ainsi, elle a le titre d'associée en morphologie expérimentale. Plus encore, l'université avait envisagé très sérieusement la possibilité de lui créer un poste de professeur. Mais malheureusement pour elle et pour l'université, elle décéda avant de pouvoir endosser ce rôle.
Nettie Stevens développe un cancer du sein sur la fin de sa vie et elle meurt alors qu'elle était dans la phase terminale le 4 mai 1912 à Baltimore dans le Maryland.
Elle décède jeune, à l'âge de 51 ans, mais elle a eu le temps malgré tout de marquer son époque et la communauté scientifique en général. Elle fut l'une des premières scientifiques de sexe féminin aux États-Unis à être reconnue pour ses découvertes. On peut dire qu'elle est, d'une certaine façon, au fondement de la cytogénétique.
La cytogénétique, c'est-à-dire une branche de la science qui étudie le rapport de la génétique avec les composants cellulaires, et notamment les chromosomes, pour en déterminer l'influence sur l'hérédité biologique.
Sa découverte de la détermination chromosomique du sexe est fondamentale en histoire des sciences. Ça n'a pas empêché ceux qui avaient encensé Nettie Stevens de chercher à réduire son rôle après sa mort. Ainsi, Thomas Hunt Morgan a affirmé publiquement qu'elle était davantage une technicienne, une chercheuse, plutôt qu'une réelle scientifique.
Et aujourd'hui encore, on a tendance à accorder la majeure partie du crédit de la découverte de la détermination du sexe par les chromosomes à Edmund Beecher Wilson. Celui-ci n'a en réalité publié ses travaux que parce que les premiers écrits de Nettie Stevens l'avaient encouragé à explorer cette voie encore peu développée de la science.
Nettie Stevens ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant. Le seul héritage qu'elle laisse est scientifique, mais il est aussi, d'une certaine façon, psychologique. Ses étudiants se sont toujours souvenus d'elle comme d'une femme assurée, déterminée, cherchant vraiment à faire comprendre la logique des raisonnements scientifiques. Ses professeurs, ses maîtres, ses supérieurs ont toujours remarqué sa grande intelligence et son talent dans la réflexion.
Dans une filière de la science réputée difficile, Nettie Stevens a finalement su s'imposer au fil des décennies comme une référence incontournable. Et d'un point de vue plus personnel, elle est toujours restée attachée à sa famille. D'ailleurs, son corps repose dans le cimetière de Westfield, dans le Massachusetts, aux côtés de ceux de son père, sa belle-mère et les cendres de sa sœur.
Celle qui a découvert l'importance des chromosomes dans la détermination du sexe des individus gagne à être mieux connue. Ses travaux sont fondateurs. Sa façon d'écrire est claire et efficace. Nettie Stevens incarne la scientifique moderne.
Et loin des dogmes positivistes du « tout pour la science, tout par la science », son regard et sa pensée éclairée fournissent un modèle pour le scientifique d'aujourd'hui et de demain. Elle a décidé de se mesurer aux questions difficiles de la science, en restant prête à avouer si besoin est son ignorance, son incertitude.
Toujours prête à douter de ses conclusions, toujours prête à les revérifier par l'expérience, telle est Nettie Stevens, dont le zèle n'a eu d'égal que le brio.
À notre époque où la mode est à l'oubli des données naturelles qui nous précèdent, sans pour autant nous imposer un destin, il serait peut-être de bon ton de ne pas oublier la contribution essentielle de Nettie Stevens dans la détermination sexuée des individus.
Mais plus largement, il s'agit de saisir la complexité des sujets abordés, la complexité qui reste celle des êtres vivants. De nombreux animaux, de lignées très différentes, exploitent le système XY découvert par Stevens pour décider du sexe de l'individu, mais en ont adopté des variantes.
155 ans après la naissance de Stevens, il nous reste encore bien des mystères à éclaircir dans le domaine de la génétique. Tâche aux scientifiques de demain de prendre exemple sur ce modèle de travail et d'abnégation qu'a incarné toute sa vie durant cette femme scientifique du début du XXe siècle appelée Nettie Maria Stevens.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h sur Radio Campus Paris.